Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Antoine Papadimitriou, bonjour et merci de répondre à cette interview par téléphone d'Athènes.
Merci madame, merci à vous.
Vous êtes le président de la fondation Alexandre Onassis, une fondation d'intérêt public siégeant au Liechtenstein et qui porte le nom du fils du célèbre armateur grec Aristote Onassis. Je veux parler de son fils, Alexandre Onassis, mort à l'âge de 25 ans dans un accident d'avion. Alexandre Papadimitriou, quelles sont les diverses activités de la fondation Alexandre Onassis, créée en 1975? Quels sont ses objectifs généraux en fait?
La fondation Onassis est une fondation d'intérêt public qui a certaines caractéristiques spécifiques que je vais vous dire très laconiquement. La fondation Onassis a reçu la moitié du patrimoine d'Aristote Onassis. L'autre moitié a été léguée à sa fille Christina, qui elle aussi est décédée et maintenant appartient à la petite fille d'Aristote Onassis, Athina Onassis, qui vit actuellement au Brésil. La Fondation d'intérêt public donc reçoit comme une dividende, si vous voulez, 40% des profits de ce patrimoine qui aujourd'hui se divise en entreprises d'armement de navires, deuxièmement des immeubles et troisièmement un patrimoine financier. Nous-mêmes, nous l'administrons. Donc 40% des profits sont pris par la Fondation d'intérêt public et qui sont ensuite portés aux objectifs que nous avons. Et les objectifs que nous avons sont des objectifs plutôt, je dirais, culturels qu'autre chose, mais nous avons aussi une activité importante dans la Grèce elle-même pour la solidarité sociale. Donc nous avons un hôpital cardiaque ici à Athènes et d'autres choses qui sont, si vous voulez, mais c'est tout ça, nous ne le faisons qu'à Athènes, qu'en Grèce. La raison est qu'Onassis avait voulu que tout ce que nous faisons ait un caractère grec. Donc nous ne pouvons pas donner de l'argent ou soutenir des causes importantes, certes, mais qui n'ont pas de lien avec la Grèce. Sur le point de vue culturel, là, nous faisons plus large parce que nous pouvons soutenir des activités culturelles qui n'ont pas un lien direct avec la culture grecque ou la culture, la civilisation hellénique, parce que nous pensons que la culture et la civilisation hellénique sont un des fondements du patrimoine commun de l'humanité.
Et sur ces activités culturelles, Aristote Onassis avait eu une visée d'emblée d'une dimension internationale. Il avait visé d'emblée cette dimension.
C'est exact. Il avait d'emblée voulu cette dimension internationale parce qu'Onassis lui-même était un citoyen du monde. C'était un Grec qui est né en Asie mineure, en Smyrne. Il est parti dans l'Asie mineure en 1922, portant un passeport turc à l'époque. Il est parti en Argentine, il est devenu argentin, il a fait sa première fortune en Argentine, et puis il est parti aux États-Unis, à New York, il est devenu citoyen américain, puis lui, il est passé une grande partie de sa vie à Monaco, sans pourtant devenir citoyen monégasque. Et puis, il est resté toujours, toute sa vie, un Grec.
Alors, la Fondation décerne donc des bourses, des prix, s'occupe aussi d'un hôpital. Mais ça représente à peu près combien de prix décernés chaque année ou de bourses?
Nous donnons à peu près 200 bourses. Et en particulier, nous décernons à peu près 60 bourses à des personnes qui ne sont pas grecques, mais qui veulent étudier ou s'occuper de quelque chose qui a toujours un lien avec la Grèce. Donc, en premier lieu, les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, l'archéologie, donc des Français, des Anglais, des Européens, des Chinois, des Japonais ont déjà reçu cette bourse pour venir en Grèce et faire quelque chose, une recherche scientifique ou des études.
Donc d'un point de vue administratif, il y a plusieurs bureaux dans le monde qui travaillent au service de la Fondation pour drainer ces bourses qui viennent d'un peu partout.
Ce n'est pas correct parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation, il n'est plus nécessaire d'avoir des bureaux partout dans le monde.
Oui, bien sûr.
D'avoir un website. Mais le site, c'est très facile, c'est Onassis avec deux S.
La Fondation Alexandre Onassis, maintenant à 35 ans, un âge assez raisonnable pour une fondation, une renommée confortable. Et l'an dernier, en octobre 2008, elle s'est associée à l'Institut de France pour créer deux nouveaux prix. Alors, pour quelles raisons, Antoine Papadimitriou, les deux institutions, la vôtre et l'Institut de France, se sont-elles rapprochées?
C'était la volonté d'Aristote Onassis lui-même, écrite dans son testament, d'établir des prix internationaux, qu'il avait voulu que ce prix ait l'envergure des prix Nobel. Dès 1978, nous avons établi le premier prix. Il y avait une première phase où nous donnions des prix à des personnalités éminentes internationales, comme le président Giscard d'Estaing, Madame Jacqueline de Romilly, Monsieur Delors, et d'autres personnalités françaises et non françaises qui ont reçu ce prix. Mais à un certain moment donné, nous avons vu que le nombre de personnalités de cette envergure commençait à diminuer parce que nous avons donné déjà assez de prix. Nous avions des problèmes pour trouver ce type de personnalité. En plus, nous avons considéré qu'un prix doit avoir une certaine qualité. Donc le prix est donné soit à une personnalité qui n'en a pas besoin, comme les personnalités que j'ai déjà nommées, parce que c'est des personnalités qui avaient déjà été couronnées par un nombre de distinctions, de prix, etc. Donc un prix de plus, ça ne marchait pas beaucoup. Par contre, il y a des personnalités qui sont dans le milieu, si vous voulez, de leur vie, qui ont déjà une œuvre importante derrière eux, mais qui ont aussi une œuvre importante devant eux. Et pour ce type de personnalité, recevoir un prix, un honneur, et aussi le montant monétaire qui s'attache à ce prix, pourrait leur donner l'impétus nécessaire pour qu'ils continuent leur travail et qu'ils augmentent leur œuvre.
Vous avez voulu, je crois, vraiment récompenser une personnalité éminente, comme vous venez de le préciser, mais qui a œuvré pour enrichir le patrimoine de l'humanité à la hauteur presque d'un Nobel. Donc c'est une conception du mécénat très ambitieuse.
C'est très ambitieux, vous avez raison, c'est pour cela que nous avons essayé de trouver des partenaires, des institutions très importante, qui pourrait donner à ce prix le lustre et aussi nous aider à localiser le type de personnalité que nous voulons. Et aussi, nous avons voulu essayer de faire une dispersion géographique de ce prix. Donc, parce que je suis francophone, j'aime beaucoup la culture française, je suis de ma première éducation a été toute faite en français, donc je pensais immédiatement à la Grèce. Et je pensais que l'Institut de France était l'institution qu'il fallait pour ce type de partenariat. Donc j'ai pris contact avec le chancelier de Breuil par l'intermédiaire de monsieur le professeur Sir Basil Marchesini et d'autres personnalités. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de Grecs qui sont membres de l'Institut de France, membres correspondants. Donc nous avons déjà beaucoup de liens avec l'Institut de France.
Il y a des correspondants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Non seulement
et
à l'Académie des belles-lettres, mais aussi à l'Académie française et ainsi qu'à l'Académie des sciences morales et politiques.
La Fondation a donc créé, dans cette perspective de rapprochement des deux institutions, deux nouveaux prix. Alors, un prix pour le droit et un prix récompensant, là encore, une personnalité éminente, soit dans l'archéologie, dans le domaine de l'histoire, de la philologie. Ce sont les sciences humaines que vous mettez à l'honneur dans cette conception du mécénat. Quelles sont les particularités de ces deux nouveaux prix et qu'est-ce que vous avez voulu distinguer de plus?
Le prix du droit est un prix que j'ai beaucoup au cœur, parce que ça présente vraiment une conception très nouvelle et très ambitieuse de ce que le droit doit être. Le monde pense que le droit est la façon de résoudre les différences entre les personnes morales, les personnes humaines. mais nous pensons que le droit peut être aussi un lien entre les sociétés et entre les nations. Je pense aux droits des hommes, des droits des hommes, aux droits du consommateur, aux droits européens, aux droits du climat. C'est un droit qui commence à porter fruit, comme les protocoles de Kyoto sont, si vous voulez, le commencement d'un droit du climat. C'est des droits, c'est une nouvelle façon de penser aux droits.
Oui.
Et nous voulons que ce prix couronne une œuvre qui porte vraiment là.
Et dans cette volonté de porter le droit dans ce qu'il a de plus utile pour, et à l'échelle internationale, parce que le droit vous paraît un élément très important comme repère aussi dans nos sociétés contemporaines, vous avez distingué une personnalité très éminente du monde britannique cette année. C'est Lord Thomas Bingham qui a reçu le prix Onassis International de droit. Pourquoi cette personnalité a-t-elle recueilli comme ça tous les suffrages du membre du jury ?
Oui, le jury était un jury composé de personnalités éminentes elles-mêmes, dont certaines pourraient elles-mêmes recevoir ce prix. Et Lord Bingham a été retenu à l'unanimité parce que c'est une personnalité qui a vraiment porté son soutien au concept que j'ai déjà décrit. Lord Bingham, en particulier, c'est un peu ésotérique, si vous voulez, ce que je vais vous dire, mais c'est très important pour les sciences du droit. Il a trouvé moyen d'établir les liens entre la tradition romaine du droit, si vous voulez, la tradition continentale du droit, et la tradition anglo-saxonne.
Coutumière du droit.
Coutumière, voilà. Oui. C'est deux traditions différentes qui se contrastent dans l'Union européenne,
oui,
mais qu'il faut trouver le moyen de les faire coexister et éventuellement fusionner au moins les concepts les plus importants de ce droit. Donc je sais que c'est vraiment pour peut-être le nouveau millénaire, mais au moins Lord Bingham a trouvé le moyen d'établir les liens qui existent entre les concepts principaux de ces deux traditions. Et il a voulu faire le nécessaire par les jugements qu'il a lui-même apportés, qui maintenant, aujourd'hui, se lisent et se réfèrent partout dans l'Europe.
En plus, il a occupé une place très importante. Il a été le premier juge à la Chambre des Lords. La reine l'a nommé chevalier de la Jarretière, un honneur tout particulier, le plus grand qui soit au Royaume-Uni. Venons-en au prix international Onassis pour les belles lettres. Vous avez là encore récompensé cette année en 2009 pour la création de ces deux prix, deux personnalités très éminentes qui ont vraiment beaucoup fait dans le domaine de l'archéologie. Le prix, cette fois, a été attribué conjointement à Sir John Boardman dans le domaine de l'archéologie grecque, vous allez peut-être nous en dire deux mots, et puis à Jean-Yves Empereur, l'archéologue français, qui a découvert les vestiges du phare d'Alexandrie, l'une des sept merveilles du monde, qui a créé un centre d'études alexandrines. Et voilà, et ces deux grands savants ont étudié le rayonnement de l'hellénisme, mais aussi au-delà des âges, parce qu'ils ont des méthodes de travail, ils ont créé des centres tout à fait innovants dans leur domaine respectif. Comment, là encore, le jury a-t-il travaillé ?
Le jury a eu un travail beaucoup plus difficile parce qu'il y avait deux noms qui, tous les deux, devraient être couronnés. Tous les deux avaient fait un travail très important. Tous les deux avaient fait beaucoup de choses pour promouvoir le concept que nous voulons soutenir.
En tout cas, c'est
à la fin, nous avons décidé de suivre le jugement de Salomon et de diviser le prix par deux, de le donner aux deux ex aequo,
oui,
ce qui est fait par exception.
Oui.
Normalement, il n'y aura qu'une seule personnalité. Il y avait bien sûr d'autres personnalités, mais le jury s'était porté plutôt sur ces deux. Je voulais dire une chose là-dessus, parce que vous avez déjà nommé Lord Bingham, nous avons Sir John Boardman,
oui,
et nous avons aussi M. Jean-Yves Empereur.
Oui.
Seul Jean-Yves Empereur est
En activité.
Si j'ose le dire. Oui, exactement. Il est en activité. Il est encore
il a 57
assez jeune
ans.
Pour avoir une œuvre importante à faire. Par contre, les deux autres personnalités sont d'un âge un peu plus avancé. Je voulais dire que ce que nous voulons faire, ce que le jury a voulu faire en nommant ces trois personnalités, c'est de promouvoir déjà le concept innovateur des prix Onassis qui sont faits avec l'Institut de France. Ce que nous voulons faire, c'est surtout promouvoir une autre idée, une idée différente de ce que peut être un prix. Le professeur Boardman et le professeur Empereur ont fait des choses qui ne sont pas vraiment au centre de la culture hellénique.
Bien sûr.
Empereur est à Alexandrie, c'est la période hellénistique.
Tout à fait.
C'est la suite de la Grèce.
Oui, et le professeur Boardman a étudié en fait la diaspora des Grecs dans l'Antiquité et leur rapport
exactement
aux autres peuples. Donc effectivement, ça rejoint vos objectifs.
Ça rejoint notre concept primordial qui est de dire que la culture hellénique et la civilisation grecque, ce n'est pas seulement pour les Grecs. C'est un des fondements de la culture universelle qui n'appartient pas aux Grecs. Elle appartient à tout le monde. Et ce que nous voulons promouvoir, c'est cette idée et de dire aujourd'hui au monde que les Grecs ont fait quelque chose, mais ce n'est plus ça. Ce qui est important, c'est que ce que les Grecs ont fait il y a 2500 ans existe encore par l'intermédiaire d'Alexandrie, de Rome, de Paris, de la France, de la Renaissance, de l'âge des Lumières qui arrive jusqu'à maintenant.
Oui.
C'est le même fondement, mais que ces questions qui ont été posées à cette époque continuent à être aujourd'hui des questions importantes et les réponses ou les suggestions de réponses qui ont été évoquées il y a déjà 25 siècles continuent maintenant à être des choses que nous devons étudier parce que ça nous aide à résoudre les problèmes contemporains.
Très prochainement, les valeurs que vous venez d'évoquer, qu'on retrouve dans l'attribution de ces deux prix Onassis de caractère international, le 14 décembre 2009, ces deux prix vont être remis sous la coupole de l'Institut de France, avec les lauréats et je suppose de nombreux invités ce jour-là à l'Institut. C'est une cérémonie presque solennelle, pour deux prix, pour justement lancer, je suppose, le caractère un peu exceptionnel, à la fois sur le montant et sur l'idée même de ces prix, parce que choisir de les décerner sous la coupole, c'est pas tout à fait innocent.
Non, c'est pas tout à fait innocent, c'est une grande valeur ajoutée au prix, c'est un honneur insigne pour les lauréats ainsi que pour nous-mêmes d'être associés à l'Institut de France et de participer à cette séance qui est vraiment une séance solennelle. C'est une séance solennelle de l'Institut.
Merci beaucoup Antoine Papadimitriou. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Alexandre Onassis et merci de nous avoir présenté les deux nouveaux prix internationaux de la Fondation qui sont remis le 14 décembre 2009 sous la coupole de l'Institut de France et qui sont décernés à trois grandes personnalités, Lord Bingham, le professeur Boardman et Jean-Yves Empereur. Merci beaucoup, Monsieur Papadimitriou.
Merci beaucoup, Madame. Au plaisir.